Alors même que le calife de Cordoue brille de tout son éclat, le petit royaume chrétien de l'Espagne du Nord tente de se donner une vie indépendante, parfois tolérée par le grand État musulman, parfois allié, souvent vaincu, mais parfois victorieux. Il représente pour Cordoue une présence ambiguë. Ces chrétiens du Nord sont ibériques autant que les peuples soumis à l'islam dès la conquête. Les mariages rapprochent les cours, à coup sûr les liens économiques et culturels. Mais les États du Nord peuvent aussi accueillir tous les réfugiés du Sud et entretiennent un esprit revanchard. La guerre sainte où s'affrontent la croix et le croissant est périodiquement relancée par les uns ou par les autres. Ces petits royaumes espagnols sont nés de la guerre, une guerre de survie au 8e siècle, et puis une guerre d'expansion, la Reconquista, où se mêlent les impératifs économiques, politiques, autant que religieux. Certes, les royaumes combattent essentiellement contre les Andalous musulmans, mais ils combattent aussi entre eux, attentifs à reprendre individuellement les terres, les fleuves et les villes qui leur sont le plus profitables. Tous les rois espagnols ont une attitude similaire vis-à-vis des peuples différents, halogènes, qu'ils découvrent dans les villes reconquises et qui y demeurent en sujet du souverain, s'ils en admettent le pacte. On leur donne une espèce de permission qui s'appelle le fuero et qui est accordée par les reconquérants. On le donne aux musulmans et on le donne aux juifs. Ce sont des juifs qui, au nord de l'Espagne, sont installés parfois depuis toujours et parfois sont venus au cours des exactions qui les ont frappés du sud, fuyant les villes andalouses, les villes musulmanes. Et au fil des ans, les libertés écrites se complètent de coutumes, de facilités de vie nées très spontanément entre des gens de religions différentes, mais qui se côtoient dans la même ville, comme parfois sous la même autorité seigneuriale et royale. L'histoire séfarade du 9e au 15e siècle du nord de l'Espagne se résume volontiers en une belle et complète énumération des droits et des libertés.
Oh,
Vous êtes sur 93.8 MHz, Cause toujours tu m'intéresses, une émission proposée par la pleine lune. Ce soir, l'aventure séfarade. Les Juifs de l'Espagne du Nord vivent donc en bonne entente avec leurs voisins catholiques et leurs voisins un peu plus lointains musulmans. Ils s'organisent dans des quartiers, construisant leurs maisons par facilité autour des synagogues et autour des maisons rituelles comme les bains, les fours et les abattoirs. Ils ne sont pas obligés de vivre dans des quartiers à part, mais bien sûr, la communauté se regroupe. Et ce sont les grands rabbins qui, du XIIIe au XIVe siècle en Espagne du Nord, vont se charger de leurs frères. Les souverains espagnols aiment bien avoir une personne responsable qui leur, comme interlocuteur à qui ils peuvent demander des comptes et donner aussi des ordres. Il est plus facile d'avoir en face de soi une seule personne avec qui discuter. Ce sont donc les grands rabbins qui donnent les lois non écrites, les coutumes qui vont régir ces quartiers juifs d'Espagne du Nord. Ces quartiers ont toujours leur hôpital, leur cimetière, les bains et l'école talmudique où tous les garçons doivent être pris en charge, quelle que soit la situation économique et sociale de leur famille. Un fils d'Israël n'est majeur que lorsqu'il a accompli sa bar mitzvah à 13 ans, lorsqu'il est capable de lire un passage du Talmud à la synagogue et de diriger la prière familiale et de participer au minyan communautaire. Donner sa chance à un jeune garçon grâce aux lettres hébraïques, c'est pour les mieux nantis, un devoir religieux peut-être, mais aussi un geste de sauvegarde sociale. Les Juifs qui sont présents spirituellement et légalement au cœur des royaumes espagnols sont aussi propriétaires de leur demeure. Ils peuvent posséder un bien à titre individuel et la seule interdiction réside dans le... On n'a pas le droit de posséder des esclaves musulmans et a fortiori chrétiens, puisque d'ailleurs, il faut savoir, l'esclavage est très largement pratiqué dans tous les pays méditerranéens. Mais ça n'empêche pas d'avoir des domestiques payés, musulmans et chrétiens. Mais on veut quand même éviter de part et d'autre l'existence trop rapprochée des convivialités. Et un rabbin d'Olite est mis à l'amende en 1380 parce qu'il prend une nourrice chrétienne pour sa fillette. Et la situation inverse est d'ailleurs également interdite. Quant aux liens charnels entre les sociétés, ils sont très rigoureusement sanctionnés de la peine de mort pour les juifs, qui sont aussi châtrés par les bourreaux chrétiens. Mais sinon, les juifs ont le droit de vivre de plein pied dans cette société, ils ont le droit d'y travailler, ils ont le droit d'y avoir des positions importantes, ils sont médecins, ils sont philosophes, ils sont aussi prêteurs d'argent, ils sont artisans, c'est eux qui sont responsables, par exemple, qui travaillent le cuir, ils ont le droit de s'exprimer et ils ont le droit de participer au gouvernement.
Dos amantes tengo la mi mamá, al cual que me tome yo. Dos amantes tengo la mi mamá, al cual que me tome yo. El uno es pantalonero, el otro es particular. El uno es pantalonero, el otro es particular. Oh, el pantalonero la mi mamá, engañándolo estoy. Oh, el pantalonero la mi mamá, engañándolo estoy. Oh, el particular mi mamá, lo amo de corazón. Oh, el particular mi mamá, lo amo de corazón. Echa agua en la tu puerta, pasaré y me callaré. Echa agua en la tu puerta, pasaré y me callaré. salgan los tus parientes, me daré a conocer. Para que salgan los tus parientes, me daré a conocer. Ven, mi ruca, ven, hermosa, verás donde vivo yo. Ven, piruca, ven, hermosa, verás donde vivo yo. Entre dos montañas altas, donde no venía yo. Entre dos montañas altas, donde no venía yo. Dos amantes tengo la mi mamá, al cual que me tomé yo. Dos amantes tengo la mi mamá, al cual que me tomé yo. El uno es pantalonero, el otro es particular. El uno es pantalonero, el otro es particular.
Il est arrivé un matin où les Juifs d'Espagne n'eurent plus droit de cité en tant que tels. Eux qui côtoyaient les chrétiens et les musulmans sur le même sol ibérique, dans les vignes irriguées par l'eau des mêmes fleuves, dans les quartiers des cités dont ils tenaient les marchés et les tables de change, ces Juifs ont dû vendre et partir, ou se faire oublier. Samuel et Abraham devinrent Luis ou Diego s'ils décidèrent de demeurer dans les résidences séculaires. Ils durent fermer les yeux sur l'écroulement de leur civilisation juive séfarade. Les synagogues devinrent des églises, des couvents, des ateliers, des maisons particulières. Les pierres tombales des cimetières servirent à paver les routes ou à rehausser et colmater des édifices publics, comme le palais des comtes de Catalogne à Barcelone, dont les murs sont constellés de lettres hébraïques. Ceux qui décidèrent de rester, Samuel ou Abraham, partirent. Ils laissaient la place à leurs voisins, heureux d'habiter dans leurs murs et de cultiver leurs champs. Ce matin du grand départ, c'était en juillet 1492. Mais comment l'Espagne des trois religions en était-elle arrivée là ? Bien sûr, les années qui s'étaient passées, les siècles qui s'étaient passés n'étaient pas toujours tranquilles. Il y avait eu des moments d'émotion, des émois populaires, plus ou moins coordonnés, des vrais pogroms, comme on peut les décrire dans l'Est de l'Europe. En 1111, par exemple, à Chagoun, la foule a surgé contre le gouvernement urbain, avait pillé la Juderia, le quartier juif, comme le fait à son tour la foule de Tolède, qui en 1146, dans une révolte dirigée contre tout ce qui est étranger à la ville, français et juif, pille la Juderia. Ces événements, bien sûr, s'étaient passés, comme ils se passaient dans toute l'Europe. Mais le ton monte au moment des épidémies qui secouent la péninsule, d'ailleurs comme tout le reste de l'Occident, au XIVe siècle. En 1348, de l'époque, les deux années entre 1348 et 1350, le tiers de l'humanité européenne disparaît, d'après ce qu'en rapporte Froissart. Les vignes et les campagnes ibériques sont atteintes, en 1348 surtout, et puis lors des retours des pestes de 1361, 1375, 1383. Les Juifs meurent, bien sûr, comme les autres, autant ou plus, car leurs quartiers sont très denses et ils sont frappés comme sont frappées les autres villes par ce fléau. Mais on assure qu'il n'en meurt qu'un sur 100 chrétiens. Ce sont bien sûr des évaluations toutes gratuites des citadins jaloux, affolés par cette mortalité qui tue les jeunes comme les vieux, les riches comme les pauvres. Mais on en cherche la cause, et elle est dans la cité, et c'est le peuple juif. « La ville, atteinte de la peste noire, tue ses juifs. Le mouvement se répand en chaîne d'une cité à l'autre dans les royaumes de Castille et d'Aragon. On peut ainsi lire à Séville en 1380 un écrit très remarquable de médecin qui analyse les causes de l'épidémie de peste à Séville. Voilà la citation. « L'air de Séville est chaud et humide. La raison en est la pourriture et la corruption qui sortent de la Juderia, car y vivent des nombreux condamnés à tous les maux. » Avant de chasser ces juifs, l'Espagne a voulu les convertir. Avant de tout leur interdire de la vie espagnole, elle a tenté de les convaincre qu'ils n'avaient pas la vérité et que désormais le vrai peuple d'Israël, le vrai Israël, était le peuple chrétien et non le peuple de l'Ancien Testament. Les grandes tournées de conversion alternent avec des mesures restrictives. Ces conversions, on essaye de les obtenir par des disputes. Ces disputes sont une institution qui remonte au XIIIe siècle, où l'esprit des conquêtes a un peu diminué. On en est maintenant aux prédications, à essayer de convaincre par la parole, par le sophisme, par la preuve de la vérité de ce qu'on avance. Au milieu du XIIIe siècle s'organisent donc les premières disputes. Ce sont des disputes où des tenants connus, des tenants très illustres des principales religions, catholiques et juives, s'affrontent parfois pendant des mois, parfois même pendant des années. S'affrontent pour essayer de persuader l'autre, pour essayer de défendre sa religion. Et c'est quelque chose d'étonnant que ces disputes, ces véritables procès, où ce n'est pas une personne qui est mise en cause, mais toute une philosophie, toute une religion, toute une vie différente, et non pas d'une personne, mais de tout un peuple. Et ces disputes entretiennent dans l'esprit l'affrontement verbal qui va peu à peu préparer la véritable violence. Car il ne faut pas non plus se leurrer, ces disputes, même si elles ne sont que dans les mots, ont des conséquences bien précises. Et celui qui a perdu la dispute doit en prendre une leçon et... Il s'agit pour les Juifs qui perdent ces disputes de disparaître très vite ou de se convertir. Et on assiste d'ailleurs à des conversions assez spectaculaires, comme celle du grand rabbin de Burgos, Salomon Alevi, qui se fait baptiser en juillet 1391 avec toute sa famille. Il prend le nom de Pablo de Santa Maria, il entre dans les ordres et devient évêque de Burgos. Mais 1391 est une année sanglante dans tous les États d'Aragon, comme en Castille. Des Juderias sont pillées, leurs habitants massacrés. Les souverains essayent parfois d'arrêter ces révoltes, mais dans beaucoup d'endroits, en Castille en particulier, on meurt sans la protection des armes, ni celle du roi. Di sol de neverano, non mi si così. Morinica, graziosica sos, morena io graziosa di buonos pretos tu. Morinica, graziosica sos, morena io graziosa di buonos pretos tu.
Mis amigos, me voy a ellos, morenita, graciosita sos, morena yo graciosa y por los pretos tú, morenita, graciosita sos, morena yo graciosa y por los pretos tú.
Mais les juifs convertis, les conversos comme on les appelle, ne s'éloignent pas de leurs anciennes communautés, de leurs anciens coreligionnaires. Ils sont clairsemés jusqu'au début du XIVe siècle, mais leur rang se renforce dans toute la société ibérique après 1391-1414 et entre 1450 et 1480. Car dans toutes les cités espagnoles, ils continuent à fréquenter leurs amis juifs, à participer aux fêtes de circoncision, de mariage, à toute la vie juive. Ils font toujours circoncire leur fils. Ils lavent l'enfant après son baptême à l'église pour le purifier et puis ils les font rentrer dans l'alliance du peuple. Ils continuent tous à réciter les prières hébraïques, à manger kasher, à observer le Shabbat, à jeûner au moment de Yom Kippour. Et en voyage, ils descendent chez les juifs. Ils se font enterrer selon le rite de funérailles juifs. On voit donc se dessiner toute une tradition semi-clandestine où les juifs convertis, tout en ayant une pratique catholiques, en allant à l'église, conservent tout à fait leurs anciennes traditions, conservent leurs croyances, conservent leurs prières. Et peu à peu s'établit cette tradition clandestine et on voit par exemple ces juifs convertis réciter à la fin de la messe catholique une prière cachée, une prière secrète, une prière muette, où en fait ils s'excusent devant le vrai Dieu de ce blasphème. Et c'est contre ces convertis que les mesures vont être prises et des mesures de plus en plus coercitives et qui se précipitent. En 1451, une bulle du pape Nicolas V permet d'examiner la vie des conversos. Et en 1462, un nonce apostolique est nommé inquisiteur de Castille. De 1467 à 1473, de terribles émeutes à Tolède et à Cordoue s'en prennent d'abord aux conversos et puis dégénèrent très vite en assaut de la Juderia. Car le conversos est en fait un crypto-judaïsant, donc il est hérétique. Et il faut le préserver de cette hérésie et le contraindre à la vie chrétienne. Mais le juif aussi est dangereux, car le conversos continue à vivre près de lui et comme lui. L'exemple du juif est toujours en face de lui, propre à être imité. Il faut éviter de tels contacts. Il faut chasser les juifs pour préserver la nouvelle foi du conversos. Et la voix du grand inquisiteur Thomas de Torquemada l'emporte et on décide l'expulsion des juifs. Les Arabes viennent d'être anéantis lors de la victoire de Grenade et les rois espagnols décrètent le 31 mars 1492 l'expulsion des Juifs de tous leurs États. Les Juifs sont avertis que d'ici le 9 du mois de Hab, en juillet, ils doivent partir. cette date de juillet 1492 a été choisie pour les anniversaires douloureux de la destruction des deux temples de Jérusalem. Et à cette date, les Juifs d'Espagne doivent ou bien se convertir ou quitter le sol des royaumes. De mars à l'été, une fièvre de vente secoue tous les ghettos, toutes les juderias. Les Juifs croient pouvoir emporter leurs affaires et leurs sacs de monnaie. Et ils se dépêchent de réclamer leurs créances, qu'on ne leur rembourse pas ou on leur rembourse mal. Ils se dépêchent de vendre les terres, les maisons particulières, les propriétés collectives. Ils vendent trop vite, à perte. Et puis, ils se dépêchent aussi de se marier. Les parents marient hâtivement les enfants dès 12 ans ou 13 ans, croyant que les couples seront favorisés dans le grand départ. Tous cherchent le port, le pays d'accueil le plus sûr. À l'approche du mois de juillet, on fait proclamer qu'aucun juif ne peut emporter de l'or. Mais on leur autorise leurs vêtements et leurs bagages. Alors les futurs exilés tentent de négocier leur or, en soierie ou en fourrure. Les joyaux sont confisqués par les conseils urbains ou par les inquisiteurs ou par des intermédiaires peu scrupuleux. Deux cent mille juifs se bousculent à Barcelone, Tortosa, Denia, Valence, Almeria, Algeciras, Cadix. Ils sont fouillés au moment de monter à bord. Certains arrivent à Fès, par Tanger, Ceuta ou Alger, ou à Gênes, où personne ne les attend, et où parfois ils doivent se vendre comme esclaves pour payer leur voyage. Ils arrivent à Marseille où la communauté les aide très bien à se libérer de leur patron de navire et à s'installer dans ses familles. Ou ils arrivent même à Salonique ou à Istanbul. Certains sont vendus au Maghreb comme esclaves par les marins qui les ont transportés. D'autres sont noyés dans les cales des vaisseaux. Les séfarades périssent pour avoir quitté leur sol, mais ceux qui abordent sauvent leur foi. Le Portugal a aussi chassé ses juifs, mêlés aux réfugiés de Castille. À la fin de l'année 1496, le roi Manuel de Fortuné a décrété que tous les juifs se rassembleraient à Lisbonne pour être évacués sur des bateaux, quelque part vers les Açores ou vers l'Afrique, désormais reconnus par les marins portugais. Le grand rabbin, Simon Maimi, est mort sous la torture pour ne pas s'être converti. Mais au moment du départ, en 1497, quand le roi se rend compte des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont sur ces bateaux, il se rend compte aussi de la perte terrible pour son pays, car ceux qui partent, ce sont des artisans, ce sont des lettrés, ce sont des philosophes, des médecins, des hommes et des femmes de savoir, des hommes et des femmes riches aussi. Il se rend compte du tort que ça va causer à son pays. Et au moment donc du départ, le roi appelle vite l'évêque et il se précipite sur les foules entassées dans ses navires avec des grands seaux d'eau bénite et dont il arrose tous les juifs qui sont là et il les proclame chrétiens et les fait débarquer. Le Portugal, comme l'Espagne, a donc maintenant s'est converti. Car 150 000 juifs ont choisi de se convertir en Espagne et se sont convertis entre mai et juillet 1492. Il y a donc ces convertis qui gardent encore leurs traditions, traditions qui deviennent clandestines, et ce sont ces convertis qui seront pourchassés, qui seront exécutés par l'Inquisition. Car l'Inquisition s'est créée en Espagne, s'est constituée, s'est renforcée, surtout dans la chasse des hérétiques et des juifs convertis particulièrement. Quant à ceux qui sont partis, ceux qui n'ont pas renoncé à leur foi, ils se sont installés en France, à Amsterdam, à Venise, mais surtout dans le Maghreb. Et peu à peu, leur culture se modifie, leurs traditions changent, leur musique se modifie. Thank you. C'était sur 93.8 MHz, l'aventure séparade, une émission proposée par La Pleine Lune. Vous avez pu écouter au cours de cette émission de la musique séparade, des chants judéo-espagnols qui étaient interprétés par Teresa Berganza, par Montserrat Figueras avec le groupe Esperion, par Sarah Gorby, Victoria de Los Angeles, et nous écoutons maintenant Renette Loranez nous interpréter de la musique séfarade de l'autre côté de la Méditerranée. Radio.
شعل صنار البين في دليلي والهوج توالا هبوا يا حنيني طاب قلبي من قول سلاله